Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée « Regard sur l'actualité de la semaine ». Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Israël Moutala. Il est journaliste et analyste politique et économique. Il est rédacteur en chef du média en ligne 7sur7.cd. Bonjour Israël Moutala.
Bonjour Guy Maté et merci de l'invitation.
Maître Frédéric Kwamba Tshingege, membre de la société civile, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Gombe et membre du conseil d'administration de l'ASBEL Afia Mama. Bonjour Maître Frédéric Kwamba Tshingege.
Bonjour Monsieur Guy Maté.
Et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, journaliste camerounais, il est écrivain et président du Club de l'information africaine. Bonjour Louis Magloire Kemayou.
Bonjour Guy Maté.
Merci à tout de suite pour la rétrospective des 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de 7 jours de la semaine.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioKapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radioKapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiokapi.net.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation d'Israël Moutala, journaliste, analyste politique et économique. Il est rédacteur en chef du média en ligne 7sur7.cd. Maître Frédéric Kwamba Tshingege, membre de la société civile et avocat au barreau de Kinshasa Gombe et membre du conseil d'administration de l'ASBEL Afia Mama. Et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, il est journaliste camerounais et écrivain et président du Club de l'information africaine. Nous allons commencer cette émission par un commentaire sur la journée mondiale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes, journée célébrée mercredi 2 novembre dernier. À cette occasion, l'ONG Journaliste en danger, jette un sigle, a rendu public son rapport annuel d'observation et d'analyse sur l'état des médias et de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Dans ce rapport, JED met un accent sur les menaces et attaques enregistrées au cours de l'année 2022 contre les médias et les journalistes congolais. Au total, au moins 124 cas d'atteinte à la liberté de la presse qui se répartissent comme suit. 49 journalistes menacés, 37 journalistes arrêtés, 18 journalistes agressés, 17 médias ou émissions interdites, 2 journalistes enlevés et 1 journaliste tué. Ces chiffres sont nettement en hausse comparativement à l'année 2021 où JED avait dénombré 110 cas et en 2020 116 cas. Au regard donc de la situation sécuritaire alarmante pour les journalistes congolais, JED recommande, entre autres, la réforme sans délai de la loi actuelle sur la presse en consacrant les principes de la dépénalisation des délits de presse et aussi la mise en place d'un mécanisme national de protection des journalistes constitué des relais dans les différentes institutions concernées par la question de la sécurité afin que les exactions commises contre les professionnels des médias ne restent pas impunies. Israël Moutala, journée mondiale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. JED en a profité, n'est-ce pas, pour publier son rapport. Comment vous réagissez aux conclusions contenues dans ces rapports de JED sur la situation sécuritaire des journalistes congolais?
Je pense que la situation des journalistes congolais
à la lecture du rapport de GED n'est pas réalisante. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire par rapport à la sécurisation du journaliste dans son métier. Moi, de manière générale, je pense que tout être humain, quel que soit son travail, quel que soit son métier, a droit à la sécurité, a droit à l'intégrité physique, a droit à la vie. Et les journalistes, nous faisons un métier difficile, un métier dans lequel nous prenons des risques parfois importants. Et il appartient justement à l'État qui a consacré le droit constitutionnel à l'information à protéger les chevaliers de la plume dans l'exercice de leurs fonctions. Donc j'ai une pensée particulière pour les journalistes dans la zone de conflit de Rutshuru, ceux qui ont été menacés notamment par le M23. Donc je pense qu'il appartient à notre État, il appartient à la communauté internationale de protéger les journalistes dans l'exercice de son métier.
Merci Maître Frédéric Kwamba Tshingège. Au regard de cette situation sécuritaire alarmante pour les journalistes congolais, j'aide et recommande notamment la réforme sans délai de la loi actuelle sur la presse, réforme qui doit, n'est-ce pas, permettre de consacrer les principes de la dépénalisation des délits des presses. On se rappelle que cette demande des professionnels des médias ne date pas d'aujourd'hui. Et de votre point de vue d'avocat, quelles pourraient être les raisons, n'est-ce pas, qui puissent pousser le gouvernement congolais à ne pas accéder à cette requête des journalistes?
Oui, pour moi, je trouve que ce n'est pas le fait d'accéder à une réforme de la loi qui accorderait de droits aux journalistes. Il faut toujours commencer par les textes que nous avons. Est-ce que ces textes sont appliqués? Non. Soit en partie. C'est-à-dire, quel est l'intérêt ou l'importance de passer chaque fois à la révision des textes si les textes que nous avons ne sont pas appliqués? Moi, je pense que nous devons plus commencer par nous mettre en tête que la défense de la liberté de la presse et de la liberté d'expression, d'ailleurs consacrée par la Constitution, devrait faire partie des priorités de la politique congolaise. Parce qu'il y a déjà des textes qui existent. C'est ainsi que je commence par rendre aussi hommage à tous ceux-là qui risquent leur vie au quotidien dans la recherche de l'information fiable qui est nécessaire à l'exercice même de la démocratie et à ceux qui sont parfois arrêtés ou ceux qui sont morts si le rapport est avéré, hein, ceux qui meurent dans l'exercice de leur profession. Donc nous devons d'abord commencer par insister sur la protection des journalistes en nous référant aux textes qui existent. Ce n'est qu'à ces stades-là que nous pourrons maintenant envisager, par exemple, comme j'entends dire que l'on passe à la dépénalisation des délits de presse, c'est une bonne chose, mais j'ai toujours dit que les réformes sont meilleures lorsque d'abord les textes que nous avons sont quand même mis en application. Donc la souffrance que nous avons chez nous au Congo, c'est le fossé qui a toujours existé entre le texte et la pratique ou ce que nous trouvons en termes d'exécution. Donc nous devons nous employer tous à défendre le pluralisme des médias et leur indépendance parce qu'il n'est pas très nécessaire de dire qu'en RDC nous avons maintenant plusieurs médias si l'indépendance de ces médias n'est pas effective. Donc c'est ce que je trouve très utile en rapport avec cette actualité ou ces rapports, sans exclure le besoin de la réforme. Mais j'insiste à ce que l'on commence par appliquer les textes qui existent.
Merci Louis Magloire Kemayou. On voit avec quelle énergie certains pays comme la France se mobilisent quand les journalistes sont assassinés ou victimes d'enlèvements. Le gouvernement déploie des moyens humains, diplomatiques et politiques, soit pour obtenir la libération d'un journaliste. C'est le cas actuellement d'Olivier Dubois qui est retenu à Gao au Mali par des djihadistes. Ou faire la lumière quand des journalistes ont été assassinés, c'est le cas pour le moment avec l'affaire Ghislain Dupont et Claude Verlon. Et cependant, on constate qu'en Afrique, on a tendance à banaliser les crimes commis contre les journalistes. Nous avons des cas, beaucoup de cas dans notre pays. On a assassiné Serge Maheshe, Didace Namujimbo, Bapua Mwamba, les couples Ngike. Et la liste n'est pas exhaustive. On n'est jamais parvenu à élucider ces différents crimes. On n'en parle d'ailleurs plus. À votre avis, comment les États africains devraient-ils lutter efficacement contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Comment ces États devraient-ils décourager la commission de ces crimes?
Non, tout d'abord, je crois que nous sommes des États encore très jeunes qui ne sont probablement pas très outillés dans la lutte contre certains phénomènes, mais cela ne doit pas dédouaner nos dirigeants quant à leurs missions élémentaires, qui sont celles de la protection des citoyens et de leurs biens. Et quand on parle de la presse, il s'agit d'entreprises qui ont donc des biens et qui ont du personnel, qui contribuent à l'économie du pays et qui contribuent également à la bonne santé démocratique du pays. Donc ce sont des raisons supplémentaires qui font que on ne demande pas une protection spéciale pour les journalistes. On dit simplement que dans le cadre de la citoyenneté, ils devraient déjà bénéficier d'un appui sécuritaire de la part de l'État, mais encore plus, parce que ce sont des acteurs à part entière de la vie démocratique du pays, ils devraient être encore mieux protégés que les autres, parce que c'est grâce à eux que l'on mesure la vitalité ou pas de la scène démocratique de nos différents pays. Vous avez parlé de la France qui protège ses journalistes. Effectivement, elle essaie de les protéger du mieux qu'elle peut. Ce n'est pas toujours facile. Par moments, il y a des épisodes dans lesquels elle ne peut rien faire, comme par exemple les attaques terroristes qui ont fait que des journalistes de la rédaction de Charlie Hebdo a été décimé. Mais dans ces cas-là, au moins, il y a la compassion qui va avec et il y a tout le travail qui est fait pour que ça ne se répète pas. Et donc, étant donné que le risque zéro n'existe pas, malheureusement, cela se produit encore. Mais les efforts devraient être faits au niveau de notre continent pour que l'on sache au moins que les autorités qui ont été désignées pour protéger les citoyens et leurs biens, pour veiller à la bonne marche de la démocratie, au respect de la Constitution, qu'ils font leur travail vis-à-vis de tous les citoyens, en particulier vis-à-vis de notre corps de métier, parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et donc qu'ils contribuent à la sécurité et à la protection des journalistes.
Merci. On va prendre une petite pause avec Alpha Blondie dans Journaliste est en danger et on revient tout de suite après.
Au clair de la lune, mon ami Zongo refuse de baïonner sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu.
Il faut le savoir.
François Blondie, artiste et musicien ivoirien qui, à travers la chanson « Journaliste en danger », dénonce l'assassinat du journaliste burkinabé Norbert Zongo, assassiné le 13 décembre 1998 au Burkina Faso plutôt, alors qu'il enquêtait sur une affaire de meurtre à la garde présidentielle. On revient à l'actualité de cette semaine. Le chef de l'État appelle à la mobilisation générale pour défendre la patrie face aux agresseurs. La guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Ces propos sont du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi lors de son allocution à la Nation jeudi 3 novembre. Le chef de l'État a compati tout d'abord avec plus de 200 000 compatriotes qui ont fui leur milieu. Il a aussi demandé aux vaillants soldats de défendre, protéger l'intégrité du territoire et d'assurer la sécurité du peuple congolais. Ce message intervient au lendemain de l'annonce par le gouvernement kényan du déploiement de ses militaires pour pacifier l'est de la RDC en proie aux rébellions et autres groupes armés. Ce déploiement a été approuvé en juin dernier à l'issue d'un sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC à Nairobi. De leur côté, les États-Unis d'Amérique ont pour la première fois appelait clairement l'armée rwandaise à cesser tout soutien à la rébellion du M23. Israël Moutala, journaliste, vous êtes analyste politique économique, rédacteur en chef du média en ligne 7sur7.cd. Le chef de l'État appelle à la mobilisation générale pour défendre la patrie face aux agresseurs. De son côté, le Kenya annonce le déploiement de ses troupes dans l'Est pour combattre les groupes armés. Et les États-Unis demandent au Rwanda de cesser de soutenir les M23. Et qu'est-ce que tout cela peut changer dans les cours des événements, Israël Moutala?
Moi, je pense que la phrase la plus importante que j'ai retenue de l'allocution du président de la République, c'est « Nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation ». Donc, je pense que le salut de notre nation est d'abord et avant tout une question nationale. A-t-on pris la mesure du défi? Quelle est notre vision par rapport à nos frontières, par rapport à la protection de nos populations civiles, par rapport à la protection de nos ressources? C'est quoi la doctrine de la RDC? La doctrine de défense de la RDC. Nous sommes un pays immense, avec 9 voisins. Comment est-ce que nous bâtissons une armée au cœur de l'Afrique? Pour quel projet? Est-ce que nous voulons être un État démocratique qui puisse être une sorte de grand frère, une sorte de force de paix pour essayer de stabiliser toute la sous-région? Donc, tout dépend de l'ambition que nous avons. Et une fois que nous aurions défini une très belle ambition par rapport à ça, comment est-ce que nous y travaillons pour réaliser cette vision? C'est ça la grande question. Le président appelait à des sacrifices, mais la première personne à se sacrifier dans cette histoire d'abord, c'est l'État congolais. Vous définissez une vision, vous faites un programme, vous faites une planification, mais vous devez y consacrer les moyens. Donc, quand l'État parle, il faut plus regarder maintenant les imputations budgétaires, les crédits budgétaires qu'on offre, par exemple, au secteur de la sécurité, de l'armée. C'est là que vous allez juger de la volonté réelle d'aller dans le sens du changement. Nous avons des problèmes sécuritaires depuis 30 ans. L'histoire bégaye. Nous avons des populations civiles livrées elles-mêmes dans la nature. Nous avons une zone de non-droit dans l'est de notre pays. On y pille les ressources minières, on y pille les ressources agricoles, le cacao, le voilà. Il y a une porosité de nos frontières. Nous devons savoir, est-ce que pour l'immense pays que nous avons, on a besoin de lever une armée de 500 000, de 1 million de personnes, de soldats? Où va-t-on les caserner? Comment seront-ils formés, équipés? Donc, bref, nous avons des axes stratégiques à faire. Et on a fait un premier pas cette année avec la loi de programmation militaire. Et donc, je pense qu'il commence à y avoir une prise de conscience. Parce que c'est vraiment humiliant de se plaindre, de pleurnicher. Nous sommes 100 millions d'habitants. Nous sommes une puissance potentielle. Et donc, à un moment, il faut arrêter. La solution est endogène. Elle est endogène. Donc, c'est une question de vision, de volonté et d'action. Mais je pense que, dans un premier temps, on peut s'appuyer sur des États, sur la communauté internationale, encore que la communauté internationale a des intérêts divergents, elle ne parle pas d'une seule voix. C'est de se poser la question, qui dans la sous-région a intérêt à ce que la RDC soit stabilisée? L'instabilité profite à qui? On a toutes ces réponses-là. Non, mais nous, c'est à nous d'imposer la paix dans la sous-région. Et donc, si nous étions un État, par exemple, voyou, on pourrait lever une armée solide et pour terroriser les autres. Mais je ne pense pas que c'est cette finalité-là qui nous intéresse. Notre finalité est de bâtir une armée forte, capable de donner la paix à sa population, de sécuriser nos frontières, et en temps de paix, que cette armée se livre à des activités de développement. Donc voilà à peu près ce qu'on doit faire. Mais quand je regarde, par exemple, pour terminer sur cette question, quand je regarde que l'État lui-même ne fait pas suffisamment d'efforts pour dégager des moyens pour donner à l'armée, cette année, c'est vrai, on approche de 1 milliard de dollars en termes de budget à l'armée. C'est vraiment un effort considérable. On commence à prendre la mesure. J'espère que lors de la reddition des comptes en 2023, on aura décaissé ces crédits qui ont été affectés au secteur de la sécurité. Mais encore une fois, je pense que on peut réduire drastiquement le train de vie de l'État. Vous avez une institution comme le Conseil économique et social qui ne sert à rien, mais qui prend des millions de dollars de crédits chaque mois et ainsi de suite. Vous avez plusieurs institutions de l'État qui sont inutiles. On peut justement aller cisailler dans le budget de l'État, voir les institutions qui sont inutiles, les supprimer et dégager des ressources affectées au secteur de la sécurité qui est pour moi la priorité des priorités. Car sans armée, sans service de sécurité important, l'État est nu, l'État est fragile.
Merci Maître Frédéric Kwamba Tchinge, membre de la société civile et avocat au barreau de Kinshasa Gombe, membre du conseil d'administration de l'ASBEL Afia Mama. Vous venez de suivre Israël Moutala qui dit que tout dépend, n'est-ce pas, de la vision que nous avons des enjeux actuels, tout dépend de nous-mêmes et que la solution par rapport à la situation qui prévaut dans l'Est de la RDC, la solution elle est endogène. Et c'est quoi votre réaction par rapport aux propos d'Israël Moutala?
Oui, je souscris en partie, je dis bien en partie, à l'entendre, parce que la solution n'est pas seulement endogène, elle est également exogène. Parce qu'on ne peut pas gérer un pays de l'intérieur et croire maîtriser tous les enjeux de la gestion même de cet État. Et en rapport avec l'appel du chef de l'État sur l'unité de ses fils et filles pour défendre la patrie, je pense que cela ne peut être atteint que lorsque la gestion même de nos richesses sera équitable. Vous savez, c'est comme un père de famille qui a 6 enfants et il a à manger, il en donne d'abord à 2 et dit que le 4 pourront manger, nous sommes lundi, ils pourront manger le dimanche. Et par après, quand il appelle à l'unité, je pense que cette unité sera très fragile. Donc il y a certaines injustices qu'il faudra à un certain moment essayer d'éradiquer pour permettre à ce que les Congolais commencent encore à raffermir leurs liens et retrouver cette unité nationale. C'est très important parce que les divisions que nous avons aujourd'hui au Congo, on ne peut pas les résoudre en disant seulement que soyons unis. Non, il faut voir quelles sont les causes de ces divisions. Même quand on parle de tribalisme, il y a des causes du tribalisme, il y a des causes qui nous ont amenés aujourd'hui à comprendre que nous ne sommes pas unis. Surtout que le patriotisme n'est pas une obligation légale. C'est juste un sentiment. Et c'est le père qui est notre nation, notre État, qui doit faire que ses fils et ses filles adhèrent à ce sentiment de patriotisme. Et les rôles à jouer reviennent d'abord à l'État, comme M. Israël Moutala venait de le dire. Parce que tout dépend de ce que l'État va placer comme politique qui pourra amener tous les Congolais à se retrouver autour d'un même idéal et d'aborder la question de l'insécurité ou celle de la guerre à l'Est. En rapport avec la position du Kenya, moi je pense que nous devons être très très prudents. Prudent pourquoi? Parce qu'à entendre le président du Kenya, parce qu'il a bien dit dans ses affirmations que nous ne permettrons pas aux groupes armés, aux criminels et aux terroristes de nous priver de notre prospérité commune. Et il a fait allusion à son voisin qui est la RDC. Mais le même président n'a rien dit par rapport à l'autre voisin qui est le Rwanda, Surtout que aujourd'hui, il est clair que la RDC fait l'objet d'une guerre d'agression. J'aurais voulu que le Kenya se prononce également par rapport à au Rwanda pour que nous puissions voir si c'est un allié sérieux et fidèle. C'est pourquoi je dis, nous devons, je rejoins M. Israël Moutala pour dire que les solutions doivent provenir de nous. C'est là où je soutiens sa position. Nous devons réfléchir comment arriver à gagner cette guerre. Par rapport à la position des USA, c'est vrai que les USA demandent au Rwanda d'arrêter. Mais il ne suffit pas seulement de demander d'arrêter, parce que le discours ou la prise de position, souvent des États, ça a toujours été pris d'une manière stratégique. Parce que quand je dis, moi je suis les yeux des USA, je dis au Rwanda d'arrêter et que le Rwanda n'arrête pas. Quelle est l'importance de ce discours? Moi je pense qu'il faudra aussi que les États-Unis d'Amérique, en tant que grande puissance, membre permanent des Nations Unies, au lieu de se limiter à dire cela, mais de passer à certaines actions comme les États-Unis l'ont fait pour d'autres États, en sollicitant peut-être des sanctions, parce qu'il s'agit de deux membres des Nations Unies où l'un est en train d'agresser l'autre. Donc je pense que les États-Unis seraient mieux d'ajouter à ce qu'ils font comme déclaration des actes qui permettront au Rwanda d'arrêter.
Merci, Maître Frédéric Kwamba. Louis Magloire et Temayou, journaliste camerounais. Vous êtes écrivain et président du Club de l'information africaine. L'escalade à laquelle on assiste depuis quelques jours sur le front peut signifier quoi, à votre avis? Est-ce que c'est un échec des différents processus qui ont été initiés pour ramener la paix dans l'est du pays, notamment les processus de Luanda?
Bon, je crois. Il faut penser que par moment, les mouvements armés aussi ont besoin d'être à l'équilibre dans leur compte, voire de pouvoir gagner de l'argent. Pourquoi pas? Parce que certes, il y a une nécessité de voir comment on fait aujourd'hui pour arrêter l'hémorragie sécuritaire, mais il faut voir d'où elle est venue cette hémorragie. C'est quand même au moment où on était, où des rebelles se sont constitués en mutinerie pour renverser Mobutu Sese Seko dans les années 90, qu'ils ont fait entrer des rebelles venus de l'étranger, notamment de l'Ouganda et du Rwanda. Et depuis, il n'y a pas juste deux ou trois groupes. Il y a plus de 100 groupes aujourd'hui qui interviennent et qui alimentent cette crise sécuritaire que traverse la RDC. Et donc, il ne faut pas sous-estimer le fait qu'entre eux, il y a déjà la rivalité pour tenir le territoire qui est le leur. C'est un butin de guerre qu'ils doivent exploiter en tant que tel. Et puis de l'autre côté, il y a le prix également des matières premières sur le marché international qui a augmenté. Et donc plus on vend, mieux ça va. Et donc je peux comprendre que sur le plan de la logique typiquement commerciale et mercantile, ces groupes-là se fassent la guerre et fassent la guerre à la population pour gagner davantage, tirer profit de la hausse des prix des matières premières sur le marché international. Donc je ne me fais aucune illusion là-dessus. Ce n'est pas par amour, ce n'est pas par méchanceté, c'est juste qu'ils veulent gagner davantage par rapport à leur vache à lait qui est devenue l'est de la RDC. Maintenant, comment on fait pour régler cette situation? C'est déjà bien que le gouvernement de Étienne Tshisekedi, le président, ait donné comme priorité la restauration de la paix à l'est de la RDC. Mais cette restauration ne se fera pas tout seul. Les appels qu'on fait pour dire que toute la population doit être unie, ça, ce ne sont que des mots. Il faut qu'à côté des mots, on mette également des actes concrets, que les policiers, les militaires, les civils qui s'engagent auprès de l'armée pour aider à restaurer cette paix soient traités convenablement. On ne peut pas avoir des soldats qui sont maltraités, avoir un état-major qui est bien traité et s'attendre à avoir des résultats sur le terrain. C'est impossible. Et malheureusement, c'est ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui. On déploiera toutes les forces que l'on veut et la MONUSCO est déjà un très grand déploiement. C'est le plus grand déploiement qu'il y a eu depuis la création des Nations Unies, mais il n'y a pas de résultat. Je ne vois pas ce qu'une force supplémentaire, qu'elle soit africaine ou pas, apportera, et je ne vois pas, y compris au niveau de la mobilisation nationale, ce que cela changera si on ne change pas de doctrine, si on ne change pas également d'approche vis-à-vis des artisans de la paix, que sont malheureusement les soldats. Enfin, je dis artisans de la paix, parce que c'est en faisant la guerre qu'ils ramènent la paix. Et donc, il faut se battre aujourd'hui pour que ces soldats-là soient bien traités, qu'ils soient régulièrement payer, que les soldes qui leur seront destinés aillent effectivement dans leur poche et que les équipements dont ils doivent bénéficier soient achetés et acheminés sur le front de guerre et que les détournements qui sont effectués par les officiers et les sous-officiers ne les pénalisent pas dans leur engagement. Moi, je crois que le problème, il est déjà là parce que certains d'entre eux sont tentés, quand ils sont mal payés, un peu comme les gardes forestiers, de devenir eux-mêmes des braconniers et de se retourner contre l'État qu'ils sont censés défendre. Et donc, on ne peut pas se payer le luxe d'avoir non seulement des rebelles qui nous attaquent, mais de laisser des soldats qui étaient censés lutter contre ces rebelles-là être enrôlés par les mêmes rebelles parce qu'ils sont mieux traités sur le plan financier et économique par ces rebelles-là que par l'État. Moi, je crois que le débat doit être posé en ces termes-là aujourd'hui.
Merci, merci, chères auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Nous allons écouter cette nouveauté d'Adolphe Dominguez, Patient Moussaka, et on revient juste après.
Patient Moussaka, BMPP Entreprise. Omoni makamoto solola kangana yo, mototo ya goma, Madame Mwamwini Moussaka, la princesse Moussaka. Au fond du cœur, la ligne a eu collé caillé. Au bruit batté, du jour où le poulain l'oméa. Patient en laï, la vie est l'examen le plus difficile. Beaucoup échouent pour eux, ils essaient de copier les autres. Kamika Chama, Sakana laï. Nalinga yo kone kaye Yano Amour na biso Kino toko koma na linda arrive Patiaye Mouti kame kona mafouiza mingi Bato manapiaka kutuko machu ya la mingi Tu comprends Kya la bénédiction de l'éternel
Foto na yo Na biblia na ba réseaux sociaux
Fredi Bako le banquier Fredi
Bayo
Serge Matila,
même ton accord, battons un canambique et mon comboco. Yango le colabou, Tuna Kigina Dominguez,
Dubacho,
Adameno, Yosotosani, comme on a maillot,
Yokeling,
Bacha Moussaka, Isali Babrasa et à l'amour,
Alfonso Nina Maulinani.
Tetufana libela na mayo Pasha Moussaka Akokuta na kobatonga
Ah, Pasha Na papata libanga na manga wete la Allez-y comprendre Oya mwamini Amenunga na koma kukafo
Si partout Pasha na ngayi Sala na pasha se langa ya kafe Oya kuya na sima Akokuta porte ba kalande
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, après cette édition du journal, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi, à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire sur la journée mondiale des luttes contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Et nous avons aussi analysé la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC. Participe à cette émission Israël Moutala, il est journaliste et analyste politique économique. Il est rédacteur en chef du média en ligne 7 sur 7.cd. Maître Frédéric Kwamba Tshingeje, membre de la société civile, il est avocat au barreau de Kinshasa Gombe et membre du conseil d'administration de l'ASBEL Afia Mama. Et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, journaliste camerounais, il est écrivain et président du Club de l'information africaine. Un autre fait d'actualité de cette semaine, c'est le budget exercice 2023. L'Assemblée nationale a jugé mardi 1er novembre recevable les projets du budget exercice 2023 après les réponses du Premier ministre aux préoccupations des élus. Ce projet de loi des finances est chiffré à 14,6 milliards de dollars américains. Il a été envoyé à la Commission économique et financière pour poursuivre les travaux d'approfondissement. Selon le Premier ministre, ce budget 2023 a été élaboré dans un contexte de crise sécuritaire dans l'est de la RDC et à Kwamutu, de la grogne sociale avec multiples grèves, mais aussi de la crise alimentaire occasionnée par les caractères dépendants de notre système alimentaire. Israël Moukala, 14,6 milliards de dollars dans un contexte où l'on enregistre d'importantes recettes avec les booms miniers dans les grands Katanga. Est-ce qu'on ne peut pas faire plus que cela, Israël Moukala?
Ben non, le problème c'est que on va proposer mieux que ça, mais nous avons une économie malade. Voilà, il n'y a pas que le secteur sécuritaire qui est malade. Nous sommes un pays malade dans tous les secteurs. Donc notre économie repose essentiellement sur le secteur minier qui est le moteur de notre économie. Il faudra absolument penser à diversifier. Et donc vous avez 3, 4, 5, 10 entreprises dans le secteur minier qui payent des impôts importants, mais ça ne veut pas de ça. Nous sommes 100 millions de Congolais. Et sur les 100 millions de Congolais, nous avons à peu près 200 000 contribuables, personne morale et personne physique. Il y a quelque chose qui ne va pas. La Belgique, c'est à peu près 11 millions d'habitants et ils ont dans leur répertoire fiscal à peu près 12 millions de contribuables, personne physique et personne morale. Trouvez l'erreur. Donc vous avez un pays de 11 millions qui a plus de contribuables qu'un pays qui a 100 millions. Donc tant qu'on faisait reposer l'impôt sur une fraction d'entreprise dans un secteur donné, le compte n'y sera pas.
Et donc, il faut élargir l'assiette fiscale.
Il faut absolument élargir l'assiette fiscale. On deviendra cette puissance économique, mais quand chacun consentira à payer le juste prix à l'État. Nous n'avons pas que des droits, nous avons des devoirs. Mais pour arriver justement à réconcilier les citoyens avec le paiement des impôts, il faudrait que les dirigeants soient exemplaires. Il faudrait qu'ils connaissent une justice indépendante qui réprime réellement tous les faits de corruption et de détournement des deniers publics. Donc, il faut absolument beaucoup de sensibilisation pour ça. Parce que les ressources naturelles, faiblement, ou même presque pas, avec une faible valeur ajoutée, ne servent à rien. Nous exportons du cuivre, mais la même tonne de cuivre, quand elle nous revient sous forme de fil électrique, nous payons plus. Donc, il faudrait absolument repenser notre économie, et je pense que nous avons beaucoup de réformes à faire. La question, oui, nous avons atteint à peu près 15% de pression fiscale. En Afrique subsaharienne, la pression fiscale, c'est 30% du PIB. L'État peut faire encore davantage pour nous permettre d'atteindre un budget plus important.
Merci.
Mais cela passe par notamment la digitalisation et la collaboration entre toutes les régies financières. Mais je pense qu'on est dans la bonne voie parce qu'il y a quelques années encore, il y a deux ans, en ressources propres, nous n'étions qu'à 4 milliards. Aujourd'hui, on a franchi la barre des 10 milliards. Ça veut dire qu'on est sur la bonne lancée. Une chose est de mobiliser des recettes. Une chose est de veiller à la qualité de la dépense. Ça ne sert à rien de mobiliser autant de milliards si on les utilise mal, s'ils ne vont pas dans les projets propos, s'ils ne vont pas dans les infrastructures, si on ne réduit pas le train de vie de l'État. Parce que concomitamment à la hausse des recettes, vous voyez souvent, il y a une courbe du train de vie de l'État qui augmente. Mais cette fois-ci, on a veillé, on a baissé le train de vie de l'État, si mes calculs sont bons, à 14%. Mais je pense que 14%, c'est encore très peu. Pour moi, il faut diminuer de moitié le train de vie de l'État. Mais il faut qu'on atteigne au moins la barre de 50%,
merci,
tout en prenant le soin de supprimer certaines institutions.
Merci, Maître Frédéric Kwamba-Tchingège. 14,6 milliards de dollars, plusieurs priorités, défense nationale à laquelle on a affecté 7%, enseignement donc au EPST, enseignement supérieur moins de 5%, 3% aux élections, moins de 10% à tous les secteurs de la santé, pour ne prendre, n'est-ce pas, que ces différents secteurs. Et avec ces différentes répartitions, des défis comme ceux de la pacification de l'Est, la gratuité de l'enseignement, la santé universelle, et les prochaines élections, ces défis pourraient-ils être relevés, Maître Frédéric Kwamba-Tchingège?
À certaines conditions, oui. C'est-à-dire, nous devons d'abord arriver à mettre du sérieux dans les dépenses. C'est vrai qu'on peut réunir ces montants. D'ailleurs, ce qui constitue un record, parce que de tout le temps, je pense que la République démocratique du Congo n'a jamais atteint ces niveaux en termes des prévisions budgétaires. Mais L'autre paire de manches, c'est comment on va effectuer les dépenses. C'est ça le problème que nous avons souvent au Congo. Dire également que nous devons faire mieux, le gouvernement devait faire mieux, c'est oui, mais nous sommes devant une évidence. Ce qui a été présenté, c'est dans les limites des efforts du gouvernement. Et 32% d'augmentation, c'est quand même bien. Ça annonce quand même un travail sérieux au niveau de réunir les recettes. Mais j'insiste que le problème se pose plus au niveau de la transparence lorsqu'il faudra affecter les dépenses. Il y a très souvent, même si nous avons aujourd'hui l'IGF qui fait parler d'elle, mais il y a encore trop de zones d'ombre, même dans le travail qui fait l'IGF, d'où on voit parfois qu'il y a certaines personnes, certaines institutions qui sont bien contrôlées et d'autres non. Revoir par exemple l'assiette fiscale, comme venait de le dire Monsieur Israël Moutala, c'est très bien, mais il faut toujours faire attention parce que le problème de l'assiette fiscale est aussi attaché à la psychologie du contribuable. Vous avez appris l'histoire, par exemple, de RAM. Qu'est-ce qui est resté dans la tête du contribuable aujourd'hui? Quelle explication l'État congolais a eu à donner? Si on doit élargir l'assiette fiscale, je pense que le contribuable devrait avoir des explications très claires. Par exemple, lui dire que ce que vous donnez pourra produire ceci ou cela. Et au finish, constater réellement que les dépenses sont effectuées dans la transparence la plus totale. Donc c'est ça le grand problème que nous avons. Mais en rapport avec le chiffre atteint, moi je pense que nous devons encourager les gouvernements à aller encore plus loin. Oui, mais ces évidences exigent assez que ce qui a été réuni soit quand même suffisant pour 2023. Mais qu'il y a d'autres institutions ou d'autres départements qui n'ont pas été touchés, mais qui demeurent aussi très importants, c'est comme la recherche. Vous savez que chez nous, la recherche est toujours enfant pauvre, alors que quand vous voyez les autres États, les puissances du monde, vous trouvez que chaque État cherche toujours à allouer un budget conséquent à la recherche, parce que c'est de la recherche que nous aurons la possibilité d'abord de maîtriser notre pays, son potentiel, et savoir projeter l'avenir de ce pays si nous devons nous développer.
Merci.
Donc ce sont des questions très très importantes auxquelles nous ne devons pas fermer l'œil.
Merci Louis Magloire Kemayou. On reproche souvent aux gouvernements africains d'élaborer des budgets irréalistes et irréalisables, et aussi des budgets qui accordent beaucoup d'importance, n'est-ce pas, aux institutions politiques au détriment d'autres secteurs, notamment le secteur social. Qu'est-ce qui peut expliquer cela et comment cela doit-il être corrigé?
Moi, je crois que dans un premier temps, il faut que les Africains comprennent que les recettes de l'ultralibéralisme, c'est-à-dire, pour moi, des façons de gérer le pays qui s'apparentent plutôt à une gestion de boutiquier, ne sont pas la solution dans notre contexte. C'est pas possible. Il faut une gestion de bon père de famille. On a vu comment, malgré la hausse du prix du pétrole pendant plusieurs années, une fois que ce prix du pétrole a baissé, et drastiquement baissé, la plupart des pays ont eu beaucoup de mal à ajuster leur budget. Parce que dès que l'argent entrait, on songeait plus à le dépenser qu'à l'investir pour pouvoir obtenir mieux à l'avenir. Et donc, c'est l'un des problèmes que nous avons dans nos économies, c'est que les gouvernements ont l'impression que ils doivent gérer comme des boutiquiers. Il y a des entrées, il y a des sorties. Quand ça entre beaucoup, on peut dépenser beaucoup. Quand ça sort beaucoup, on doit se serrer la ceinture. Mais on ne peut pas vivre avec des tensions aussi fortes et espérer obtenir des résultats sur la durée. Il faut quand même trouver un moyen d'harmoniser tout cela. Et je crois que c'est une gestion en bon père de famille. Et ne pas se dire que si on a reçu aujourd'hui $50 alors qu'on s'attendait à n'en recevoir que 10, alors on est obligé de vivre sur un train de vie de $50. C'est pas réaliste. Il faut simplement se dire que si on a prévu de vivre à $20, on vit à $20 et on investit les 30 autres, soit comme le fait la Norvège qui a créé un fonds pour les générations futures, soit on investit sur le marché commercial, les marchés financiers, avec tous les risques et périls que cela comprend, mais essayer de faire en sorte que l'argent qui arrive en plus ne soit pas immédiatement englouti dans des dépenses juste parce qu'on a l'impression d'avoir un train de vie qui est artificiel, enfin, le train de vie qu'on a est artificiel, mais qu'on ne s'en rend pas compte. Moi, je crois que c'est ça qu'il faudrait corriger dans un premier temps. Et après, on verra si le fait de réduire les dépenses de l'État, le train de vie de l'État, si le fait de privilégier certaines dépenses par rapport à d'autres permet de tirer nos épingles du jeu, pourquoi pas. Mais dans un premier temps, je crois qu'on doit en revenir à quelque chose de très basique, être comme le bon paysan qui a les pieds bien dans le sol et qui sait que s'il pleut, ça va mal se passer peut-être pour certaines plantes qu'ils peuvent pousser quand saison sèche. Et donc, après, faire en sorte que s'il y a de la pluie, qu'au moment où le beau temps reviendra, on soit prêt à repartir à la hausse, à repartir dans de bonnes conditions. Voilà mon point de vue.
Merci. On prend une petite pause musicale en écoutant cette chanson « Vaccination » du poète Simaro Lutumba Massia et on revient après. C'était Vaccination, une composition du poète Simaro Lutumba Massia, interprétée par le célèbre Kiese Diambu, une chanson contenue dans l'album Testament Yaboulé, sorti en 1985. Je rappelle que nous avons dans cette émission Israël Moutala, journaliste, il est analyste politique et économique, il est aussi rédacteur en chef du média en ligne 7sur7.cd, Maître Frédéric Kwamba Tshingeje, membre de la société civile, il est avocat au barreau de Kinshasa Gombe et membre du conseil d'administration de l'ASBEL Afia Mama, et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, journaliste camerounais, il est écrivain et président du Club de l'information africaine. La problématique de la fabrication des batteries électriques par la RDC a également défrayé la chronique. Les élus du Tanganyika et au Lomami ont lancé mardi 1er novembre un appel au calme aux jeunes qui revendiquent l'implantation des usines de fabrication des batteries électriques dans leur province. Ces entités sont productrices de minerais constituant les principaux éléments de fabrication de la batterie électrique. Ils ont lancé cet appel à l'issue d'un échange avec le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, à Kinshasa. Cette rencontre a planché sur l'exécution du projet de l'implantation des usines de fabrication des batteries électriques en RDC. fait. À travers cet échange, le ministre de l'Industrie a dit vouloir renforcer l'implication des élus du Tanganyika et du Olomami dans ces projets intégrateurs. Séance tenante, Julien Paluku a assuré que le gouvernement va accélérer le développement des zones économiques spéciales dans l'ex-Grand Katanga dont font partie ces deux provinces. Ces deux provinces regorgent le lithium et autres minerais nécessaires dans la fabrication des batteries électriques. Israël Moutala, processus de fabrication des batteries électriques, la RDC détient la matière première, notamment le cobalt et le lithium, ça c'est des notoriétés publiques. Mais quand est-ce qu'elle pourrait être prête, n'est-ce pas, en ce qui concerne la chaîne de transformation de ces minerais pour aboutir à la fabrication des batteries électriques?
Encore une fois, nous sommes un pays miraculeusement doté par la nature. Il y a des richesses extraordinaires.
Voilà, apparemment nous avons perdu Israël, la réalisation va essayer de les rappeler. Maître Frédéric Kouamba-Tchingège, il a dit que c'est des multinationales qui contrôlent nos minerais, dont l'exploitation ne bénéficie pas à notre pays. Et quel pourrait être le préalable pour que ces minerais stratégiques profitent effectivement à la population congolaise, Maître Frédéric Kouamba-Tchingège?
Il est vrai que les multinationales sont toujours à la quête de l'exploitation de minerais, mais nous avons quand même un État qui a une obligation de protéger ses populations. Ben, tout le monde veut que nos minerais soient transformés davantage, comme les cobalt et autres, jusqu'à la fabrication de batteries électriques, comme on le dit ici. Mais il faudra quand même protéger les populations des impacts négatifs, surtout, et protéger également l'activité artisanale autour de ces minerais. L'État doit privilégier comment générer plus de revenus, oui. Les partenaires qui peuvent être des multinationales peuvent également intervenir, mais nous insistons qu'on ne peut pas sacrifier les communautés, quels que soient les intérêts économiques de l'État. Il faudra privilégier les intérêts des populations qui vivent dans les lieux d'exploitation de ces minerais. Donc, on ne peut pas arriver dans des endroits comme on le voit ici chez nous au pays pour trouver, par exemple, moi-même, j'ai vu, en allant vers Kolwezi, j'ai vu des élèves aller à l'école transportant les chaises à la main. Donc, en voyant cette image par rapport à ce que cette province-là produit, les Lualaba produit, on dit qu'il n'y a pas une bonne manière d'exploiter les minerais. Donc, l'intérêt doit être focalisé plus sur les populations. Nous savons qu'aujourd'hui, si nous prenons le cobalt, c'est-à-dire nous pouvons arriver à produire jusqu'à 70% sur le plan mondial. Mais cela ne doit pas exposer nos populations en minimisant que ce sont ces populations-là qui sont les premiers ayants droit en étant autochtones des terres qui produisent ces minéraux. Donc le gouvernement doit se battre pas seulement à la recherche de faire plaisir aux investisseurs, mais une autre paire de manches, c'est de sécuriser nos populations qui constituent d'ailleurs l'État congolais.
Merci la réalisation, mais signale que Israël Moutala est là. Israël Moutala, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Voilà, nous étions en train de nous demander quand est-ce que la RDC elle détient, n'est-ce pas, la matière première, quand est-ce qu'elle pourrait être en mesure de transformer ces minerais stratégiques et d'aboutir à la fabrication des batteries électriques?
En tout cas, c'est une question très importante. Nous avons la matière première, mais nous manquons les capitaux, nous manquons le savoir-faire, nous manquons la technologie. Donc, tout est une question de vision, parce que ces matières premières qui sont sous nos pieds, si nous n'avons pas les capitaux pour les exploiter, nous n'avons pas la technologie, elles ne servent à rien. Donc, l'État ici, dans sa politique, c'est de faire en sorte que il attire les capitaux pour cette transformation. Mais et les apporteurs de capitaux, les apporteurs de technologies, ceux qui ont la capacité technique et financière, ils font quoi? Ils payent un certain nombre de taxes, ils payent un certain nombre de redevances à l'État. Est-ce que la gestion de cette redevance envers les communautés locales, c'est là qu'il y a parfois des soucis? Il y a des clés de répartition entre l'État central, la province et les territoires, toutes les strates de pouvoir public. C'est là qu'il faut renforcer aussi la gestion. Parce que j'ai vu que par moment, il y a eu des rétrocessions et que certains chefs coutumiers, certains chefs de localité ont pris l'argent de la communauté et ont acheté des villas et ont acheté des types 4x4. Donc là encore, il y a une question de savoir à peu près quelle est la vision pour que nos ressources puissent impulser un changement de paradigme. Comment est-ce qu'avec le lithium, on va transformer Manono? Il faut qu'il y ait un plan de développement intégré. Il faut qu'il y ait un plan par rapport à la chaîne de valeur de l'extraction jusqu'aux applications. Mais pour ça, il faut que l'État fasse sa part. On a des problèmes d'infrastructure, on a des problèmes de route, on a des problèmes d'énergie, on a des problèmes par moment de sécurité. Donc c'est toutes ces questions, l'État doit créer les conditions pour que nous ayons un développement intégré, intégral. Donc quand vous allez à Colombie, c'est vrai, la terre la plus riche en ce moment est de manière de la RDC, vous avez une concentration de cobalt extraordinaire. Mais quand vous regardez tout autour de Colombie, certains villages, il y a beaucoup de pauvreté. Pourquoi? Parce que les communautés locales n'ont pas été préparées à se connecter au business qui naît. Vous avez des villes comme Johannesburg, qui sont nées à partir de l'industrie de l'or. L'or, on n'exploite plus de l'or à Johannesburg, mais il y a eu déjà des assurances, des banques, toute une économie qui s'est créée autour. Mais ici, chez nous, on n'arrive pas, justement, à faire en sorte, une fois qu'une industrie minière s'implante, qu'il y ait des sociétés de construction, qu'il y ait des fournisseurs de toutes sortes, et qu'on crée une économie, de telle sorte que après la mine, la vie continue.
Merci. Louis Magloire Kemayou, plus de 70% des réserves de ces minerais stratégiques se trouvent en RDC, et c'est le monde entier, n'est-ce pas, qui semble focaliser son attention sur ces pays. Et que faudrait-il faire pour qu'on ne puisse pas un jour utiliser, n'est-ce pas, des termes tels que malédiction du cobalt, malédiction du lithium, des termes qui sont souvent utilisés dans des contextes de déstabilisation. On se rappelle la guerre du Biafra au Nigeria entre 1967 et 70, à cause notamment de la lutte pour contrôler d'importants gisements des hydrocarbures.
Mon point de vue, c'est que on ne doit pas parler de malédiction concernant des choses que la nature nous a généreusement offertes. Et le sous-sol de la République démocratique du Congo regorge de ressources immenses qui ne peuvent pas être considérées comme une malédiction. Sinon, ce serait insulter le bon sens et insulter même, pourquoi pas, les dieux qui ont permis à cette partie de notre continent africain de disposer d'autant de richesses. Mais si vous gérez mal votre richesse, on va pas dire que vous avez été maudit en devenant riche. On dira que vous gérez mal votre richesse. Et je crois que dans le cas de la RDC, ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que, au-delà du discours que nous avons jusqu'à présent entendu, qui était celui du transfert des technologies, qui était celui de produire juste parce que le marché demande, il faut en arriver à quelque chose de vraiment très rationnel, qui est de dire, si nous produisons et que ça ne nous rapporte pas, on laisse les richesses là où elles sont, on pense à autre chose. On diversifie l'économie par exemple, on se concentre sur la capacité à vivre de notre agriculture et de tout ce qui nous permet de ne pas dépendre de l'extérieur. Et si jamais nous prenons l'option d'aller sur la scène internationale et d'en tirer un avantage, donnons-nous les moyens d'aller sur cette scène et d'en revenir vainqueur, de faire en sorte que le partenariat que nous allons nouer avec les différents acteurs sur le marché international soit du gagnant-gagnant. Aujourd'hui, nous produisons et ce sont les marchés qui gagnent, puisque nous ne fixons pas les prix. Les prix sont tellement aléatoires et dépendent tellement de la volonté des marchés que les producteurs eux-mêmes sont dessaisis. J'entendais au début le commentaire qui était fait sur le fait que nous vendons notre cuivre moins cher et quand il revient en fil, nous sommes incapables de l'acheter parce qu'il revient beaucoup trop cher. Évidemment que c'est un problème et c'est pour ça qu'il faut de plus en plus songer à voir comment, dans nos plans de financement, si on est capable de faire en sorte de gérer d'un bout à l'autre la chaîne et de répartir de la richesse sur le fil de l'échelle de production, que cela se fasse. Mais si nous produisons pour enrichir les marchés et continuer d'appauvrir et d'endetter les populations sur place, en leur ajoutant de l'énergie liée à l'exploitation des minerais dont nous disposons, c'est un vrai problème et j'ai l'impression que ce ne serait pas une bonne chose de continuer dans cette direction-là. Donc pour moi aujourd'hui, très clairement, soit on se donne les moyens d'être les maîtres de la production d'un bout à l'autre de la chaîne, soit alors on met entre parenthèses l'exploitation des minerais et on pense à autre chose pour l'économie et le développement du pays.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à Israël Moutala, Maître Frédéric Kwamba Tchingège et Louis Magloire Kemayou. Merci aussi à Mimi Kindou qui était à la technique avec la participation d'Hervé Voka et Christian Lomombe, DJ Daddy, sous la supervision d'Alex Essomé. À la présentation, Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h, heure de Kinshasa. On se sépare avec cette nouveauté des Cabossés et on se retrouve le samedi prochain.